ça va faire des histoires.
Oh, ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Oh, ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires. Une émission proposée par le conteur Michel Lidoux. Des histoires, des contes, des reportages, des informations. Bref, enfin tout ce qu'il faut savoir quand on aime les histoires.
Amis des histoires, bonsoir. Eh bien, ce mois-ci, j'ai eu la chance de participer au 17e festival du conte La Charrette aux Merveilles, qui s'est déroulé du 19 au 30 octobre 2019 à Morlaix, dans le Finistère. Et là-bas, eh bien, j'ai eu la chance de rencontrer la conteuse et comédienne Jeanne Ferron. Bonsoir Jeanne.
Bonsoir Jeanne, Michel.
Oui. Jeanne Ferron.
Oui, oui.
Ah, la première question que j'ai envie de te poser, c'est certainement pas la première fois qu'on te la pose, mais je suis toujours curieux. Je voudrais savoir, comment es-tu tombée dans la marmite du conte?
Oui, je suis tombée dans une bibliothèque. Enfin, c'était à Beaubourg même, tu vois, à Paris, la grande bibliothèque Beaubourg. Et puis j'arrive dans le rayon ethnologie. Et puis je vois conte Beauceron. Tiens, ça existe ? Interrogation en moi. Je prends le livre, j'étais debout entre les rayons, je lis les histoires et j'ai revu mon village. Et là, je me suis dit, mais c'est fort comme ça, les contes, ça a le pouvoir de me faire ressouvenir de mon village. Alors du coup, eh ben, tout de suite, je me suis déterminée à les raconter. J'ai dit aux contes, vous restez pas dans les livres, je vous ramène dans les villages. J'ai formulé mon petit projet comme ça. Et puis, ben, j'ai réussi à mettre ça sur pied. Je suis retournée dans les villages pour raconter les histoires. Oui.
Tu avais quel âge à ce moment-là?
J'avais quel âge? Ben, je pense que je devais avoir vers la quarantaine, hein, quelque chose comme ça. Ouais.
Et avant, tu n'as pas été dans le théâtre?
Si, j'étais, je suis comédienne aussi. Je le suis toujours. Hein.
Ouais.
Ok. Oui, donc j'ai abordé les contes à ma façon de faire au théâtre, parce que je connaissais que le théâtre, et puis... En voyant les autres conteurs, j'ai fait un spectacle donc dans la Beauce avec Michel Hindenock. Et c'est là que j'ai appris le métier de conteuse et conteur. Hein. Moi, je ne raconte pas comme Michel, mais j'ai senti ce que c'était de raconter une histoire, le lien avec le public. C'est un peu différent que le théâtre. Voilà, le travail sur les mots. Voilà, c'est grâce à Michel.
Tu as commencé avec un stage avec Michel?
Ben non, c'était pas un stage, on a été lancé directement dans l'arène. Non, alors, parce qu'à l'époque, il y avait Bruno de la Salle qui s'occupait du Clio à Chartres. Chartres, c'est la capitale de la Beauce. Donc, on m'a parlé de Bruno de la Salle et je suis allée le voir avec mon projet. Bon, il n'avait pas l'air très intéressé. Enfin, je ne sais pas si il faut dire ça. Mais... enfin, bref, mais il se trouve qu'il y avait Olivier Poubelle qui était administrateur, et Olivier Poubelle m'a entendu raconter donc des histoires, parce que je me suis lancée quand même à raconter sur Paris. J'habitais à Paris à l'époque, hein, d'où le centre Beaubourg là. Et donc il m'a entendu raconter des histoires, je sais plus où, avec un groupe de conteurs amateurs, et bien c'est lui qui a proposé à Bruno de la Salle que je fasse un spectacle avec Michel Hindenock, et ça s'appelait Les Contes de la Plaine et du Jardin. Et donc on a fait plein de tournées dans la Beauce comme ça. Michel racontait le jardin et moi je racontais la plaine. Et ça a commencé comme ça, mon aventure avec les contes. Oui, j'ai eu de la chance, hein. J'ai eu beaucoup de chance. Hein. C'est comme ça, je m'attendais pas à ça. Hein.
Tu t'es décidée à te lancer toute seule alors?
Oui, après cette tournée-là. Eh bien, alors Bruno m'a engagé aussi pour faire un travail sur George Sand, La Mare au Diable de George Sand, où je faisais le rôle de George Sand. C'était à la fois un rôle théâtral, un peu théâtral. Enfin, j'étais un personnage quand même, avec un costume, tout ça. Et puis en même temps, je racontais quand même aussi, hein, La Mare au Diable, oui. Et il y avait des personnages, il y avait Jean-Claude Bray, magnifique Jean-Claude Bray, hein, qui faisait le rôle de Germain. Nick Swanen qui faisait le rôle de la petite, là. Enfin, voilà, c'est un bon souvenir. Hein. Il y avait Jean Domelio qui jouait de la vielle à roue, et puis Valéry Arzoumanov qui jouait du piano, il jouait Chopin, lui.
Ah oui.
Ah oui. C'était beau, hein. C'était, moi, j'aimais beaucoup ce spectacle-là. Bon, voilà.
Eh bien, maintenant, je vous propose d'écouter un extrait du chef-d'œuvre de Shakespeare, revu et corrigé par Jeanne Ferron, Juliette et son Roméo.
Imaginez la ville de Vérone. Elle est traversée par un fleuve, le fleuve Adige. Et d'un côté du fleuve, sur une hauteur, là, vous voyez un palais. Bon, ça, c'est le palais du prince. Le prince, il gouverne la ville. Alors, si vous venez de cette hauteur, hein, là, vous passez un petit pont, et à la sortie du petit pont, vous voyez une belle grande maison. Ça, c'est la maison de mes patrons. C'est les Capulet qui sont là. Mais c'est des commerçants très riches, hein. Ils n'ont qu'une seule fille, Juliette. Elle avait 14 ans quand tout cela est arrivé. Et si vous marchez un petit peu, là, le long du fleuve, plus loin, vous voyez une belle grande maison. Ça, c'est la maison des Montaigu. Les Montaigu, c'est des commerçants très riches aussi. Ils n'ont qu'un seul fils, Roméo. Il avait 15 ans quand tout cela est arrivé. Ben, si vous marchez encore un petit peu, moi bon, ça fait du bien de marcher. Bon ben là vous voyez une chapelle, puis à côté il y a un petit cabanon en planche. Et ben ça, c'est la cabane de Frère Laurent. Je vous parle de lui parce qu'il a un rôle dans cette histoire. Frère Laurent. Et là au nord, c'est le cimetière. Alors autrefois, M. Capulet puis M. Montaigu, ils étaient associés. Et un jour, ils se sont disputés. On ne sait plus pourquoi ils se sont disputés. Mais toujours est-il qu'ils n'ont pas réussi à se réconcilier. C'est même tout l'inverse qui s'est passé. Hein? Ils ont commencé à s'insulter et même à se taper dessus. Il y a l'esprit de vengeance, la haine qui sont apparus. Puis vous savez, la haine, c'est contagieux. Ça a contaminé. Tout leur entourage. Ça faisait deux clans dans Vérone. Il y avait le clan des Capulet, le clan des Montaigu. Puis après, le père Capulet et le père Montaigu, ils sont devenus trop vieux pour se taper dessus. Mais c'est les jeunes. C'est les jeunes. Et bien, ils ont pris le relais, les jeunes. Alors, ils se provoquent, ils s'insultent. Hey, on va pas se laisser traîner dans la boue. Si vous nous narguez, on va dégainer. Puis vos filles, elles vont sentir qu'on est des sacrés morceaux. Et puis ils sortent des couteaux, hein, des épées. Vous savez, dans ce temps-là, la ville de Vérone, elle était ensanglantée. Et nous, les femmes, qu'est-ce qu'on fait pendant que les hommes ils se battent? Eh bien, nous, on sanglote.
Je vais vous dire une chanson qui est pleine de mensonges. Je vais vous dire une chanson qui est pleine de mensonges. S'il y a un mot de vrai dedans, que le diable m'emporte là. La 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 la. Je me suis levé de bon matin quand le soleil se couche. Me suis levé de bon matin quand le soleil se couche. Et je suis parti travailler au fond de la rivière là. La 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 la. J'ai mis ma voiture sur mon dos, les deux roues dans ma poche. J'ai mis ma voiture sur mon dos, les deux roues dans ma poche. Je roule en haut, je roule en bas, il tombe des noisettes là. La 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 Si vous passez devant chez moi, entrez dans la cuisine. Si vous passez devant chez moi, entrez dans la cuisine. Vous trouverez ma femme dans le four et puis la poule qui tricote là. La 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 la.
Dis-moi, Jeanne,
oui,
ta spécificité, ton univers, comment tu le définirais?
Alors, mon univers, enfin, moi, je veux être avec les gens, quoi. C'est ça que je recherche avant toute chose. Hein. Et j'ai découvert le rire dans les contes. C'est arrivé en Beauce. J'ai fait raconter une histoire, l'histoire de la mort dans un arbre, là. Enfin, c'est une version beauceronne. Et puis, j'ai fait rire les gens avec cette histoire-là. Et je me suis dit, ah, ça c'est intéressant vraiment, hein, parce que rire sur des choses tragiques, disons, c'est très intéressant. Donc j'avais envie de continuer là-dedans. Je me suis dit, tu as peut-être quelque chose en toi qui va amener le rire dans le public, donc cherche. Et puis petit à petit, c'est venu. Alors des fois ça déborde un peu, des fois je suis à côté de la plaque, et puis bon, mais enfin je cherche toujours, parce que oui, c'est ça qui m'intéresse, trouver le rire à travers des situations pathétiques, tragiques, comment rire de tout ça, non pas un rire défensif, mais un rire guérisseur, je dirais.
Oui, oui. Mm-hmm. On dit qu'on peut rire de tout. Mais pas avec tout le monde, c'est ce que disaient des proches, je crois. Alors aussi, bien entendu, pour ceux qui auraient le malheur de ne pas te connaître, c'est comme, je pense que c'est rare, mais enfin, il faut quand même qu'on leur dise, tu as donc des coordonnées, un site internet où on peut te retrouver.
Oui, bah c'est l'agence c'est-à-dire.org, je crois.
Oui,
oui, donc, enfin, si vous tapez Jeanne Ferron sur... Internet, vous trouverez toutes mes coordonnées. Hein.
Oui, et oui, on peut aussi retrouver des extraits de spectacles.
Oui, on peut retrouver des extraits de spectacles, oui. Oui.
Et voici justement un extrait du spectacle Histoire d'en rire, avec entre autres la véritable histoire de la demi-sœur de Blanche-Neige qui s'appelait Blanc Boudin.
Ils l'ont condamné à danser jusqu'à ce que mort s'en suive. Ils l'ont condamnée pour tentative de meurtre sur personne mineure. Alors, ils lui ont fait chauffer des chaussures en fer. Ils ont mis ça sur des charbons ardents. Après, ils l'ont obligée à enfiler ces chaussures-là et puis à danser, jusqu'à ce que mort s'en suive. C'est comme ça qu'elle avait perdu sa mère, Blanc Boudin. Alors, elle était restée avec le père, Blanc Boudin, mais le père, il s'occupait pas trop de sa fille. Enfin, bon, ça, c'est un autre problème. Hein. Enfin, bon, toujours est-il que quand elle a grandi, Blanc Boudin, elle rêvait que d'une chose. C'était faire comme sa sœur aînée. Elle voulait rencontrer son prince, Blanc Boudin. Elle voulait faire comme Blanche-Neige. Et suite à l'affaire Blanche-Neige, il y avait le bruit qui courait que des princes se promenaient dans la montagne. Alors Blanc Boudin, elle voulait aller dans la montagne. Elle voulait voir son prince. Bon. Elle voulait trouver la cabane des sept nains. Ah bon, elle savait que les sept nains, c'était des mineurs. Enfin, bon, c'est des majeurs, hein, mais ils sont mineurs. Alors, elle s'est dit, bon, ils ont certainement besoin d'un petit peu de matériel. Ne serait-ce qu'une petite bouteille de whisky. Alors elle a préparé sa valise, Blanc Boudin, et puis elle a mis une petite bouteille de whisky, puis elle est partie vers la montagne pour trouver la cabane des sept nains. Bon, elle arrive dans la montagne. Oh, elle voit une cabane! Ça y est, c'est la cabane des sept nains. Elle s'approche et frappe à la porte. Elle entend une voix qui lui dit, qui c'est? C'est Blanc Boudin! C'est la demi-sœur de Blanche-Neige. Eh bien, ça lui ouvre la porte. Puis elle voit un bonhomme.
Maintenant, je vais vous parler des montagnes d'arrêt, c'est d'accord. Mais pour ça, il faut de la musique. Dans les montagnes d'Arrée, on a tout plus que partout ailleurs. On a de la brume plus que partout ailleurs. Du vent, de la pluie plus que partout ailleurs. De la bruine plus que partout ailleurs. C'est un pays d'eau et l'eau c'est la source de la vie. Et de la vie, il y en a dans les monts d'Arrée plus que partout ailleurs.
Christophe Colomb et Magellan ont traversé tous les océans. Marco Polo sous son bateau est allé à Cipango. Il n'avait pas besoin d'aller si loin pour trouver l'aventure au bout du chemin. Il suffisait pour ça d'aller où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Il suffisait pour ça d'aller où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Il pleut le matin, il pleut le midi. Demain ça fait briller la pluie. Le mois de juin, il y a des giboulées. Le mois d'août est bien arrosé. Et quand vient l'hiver au fond des vallées, il n'y a que des flaques et des lacs gelés. C'est un pays de pionniers, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
C'est un pays de pionniers, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
C'est un pays pour les garçons qui boivent cul sec et qui puent des pieds, qui ont la barbe en paillasson et la langue en toile cirée. C'est un pays pour les hommes forts qui ont une haleine de hareng sort. Et nous, on va y aller, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Et nous, on va y aller, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Et hop là! Des femmes si jolies à vous donner l'âme, vaillantes, intelligentes et fières, elles sont les plus belles de la terre. Vous serez séduits et envoûtés, vous ne pourrez plus vous en détacher. Pour les trouver, faut aller où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Pour les trouver, faut aller où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Vous tous qui êtes là, qui m'écoutez, si le cœur vient à vous manquer, si le quotidien vous paraît gris, sachez qu'il est un pays où vous devrez vous battre avec le vent, la pluie, mais chaque jour sera une aventure. Et puis, vous trouverez ce dont vous rêvez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Vous trouverez ce dont vous rêvez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Alors n'attendez plus et venez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Hey, hop là! Alors n'attendez plus et venez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Alors n'attendez plus et venez, où ça?
Là-bas dans les monts d'Arrée.
Alors, Jeanne,
oui,
dis-moi, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de meilleur?
De garder ma bonne humeur. Je crois que ça, c'est important. Surtout que je ne perde pas ma bonne humeur, ma joie de vivre, hein, parce que c'est quand même intéressant la vie, hein. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de personnes à rencontrer, beaucoup d'échanges, beaucoup d'empathie avec les gens, construire des choses avec les gens, tout ça c'est formidable, quoi, hein. Ça vaut la peine, hein. Ça vaut la peine d'être là, hein, pour faire tout ça. Donc je souhaite pouvoir continuer tout cela le plus longtemps possible, enfin bon, à la grâce de Dieu, hein. Voilà, faut se contenter de ce que l'on a. Hein? De toute façon, la vie est belle, n'importe comment. Même si des fois c'est terrible, mais il y a quand même toujours une beauté de la vie. Voilà. Alors sinon, me souhaiter de réussir ce travail que j'ai entamé sur le roi Lear de Shakespeare. D'après Shakespeare, je fais un travail.
Justement, je t'interromps parce que j'ai quand même oublié de te demander. Ton actualité. Qu'est-ce que tu vas nous annoncer et nous offrir déjà, là, après ce spectacle? Ton dernier spectacle qu'on a vu hier soir, c'était donc l'histoire de Roméo et Juliette.
Oui. Juliette et son Roméo, oui.
Voilà, c'était vraiment extraordinaire. J'ai aimé cette façon. Il y a quelque chose d'émouvant encore, hein, même après tant d'années dans cette histoire, et puis sa façon dont tu l'as présentée, c'était. Je dirais même, c'était merveilleux. C'était à la fois émouvant et drôle, comme tu sais le faire, bien entendu. Alors, maintenant, tu nous prépares quoi, alors ?
Alors, je travaille sur le roi Lear.
Oui.
Alors, j'ai un titre, peut-être provisoire, ça s'appelle « Alors, papa, comment ça va ?» Mais c'est provisoire encore, je ne sais pas si je vais garder ce titre-là. C'est sur les liens d'amour dans la famille, quoi. Hein. Mais pas seulement, ça s'étend aussi à tous les individus. Hein. C'est encore une histoire d'amour, le roi Lear, comme Juliette et son Roméo. Et puis, amour et folie aussi, parce que le roi Lear sombre dans la folie. C'est une histoire tragique, mais elle a son côté drôle aussi. Ouais. Alors, je voudrais arriver à amener ça à terme. Ça me tient à cœur, parce que j'ai un lien fort avec cet auteur, Shakespeare. Il m'apprend mon métier aussi. Hein. C'est un conteur aussi, lui. Il connaît tellement de choses. Il connaît tellement la nature humaine. Voilà, c'est une source, il me nourrit. Je suis fière, heureuse de l'emmener un peu partout comme ça en France. Hein. Il a toujours des choses à nous dire, Shakespeare. Je suis son élève. Et puis alors j'ai aussi en projet de faire un spectacle sur George Sand. Je ne sais pas encore quoi, hein, mais je voudrais aussi...
Tu vas reprendre alors, puisque au départ tu avais déjà travaillé...
Oui, La Mare au Diable, mais ça sera autre chose. Hein, ça sera sur cette femme écrivain, quoi. Sa place dans la société, dans sa société de son époque, quoi. J'imagine ça comme ça, mais je ne sais pas encore. Ça sera quand même, ça sera romancé. Enfin, il y aura une action, il y aura quelque chose. Hein. Oui, voilà. C'est ça mes projets en ce moment. Puis d'autres trucs qui fourmillent tout le temps. Il y a tout le temps des tas de choses à faire, tellement de choses magnifiques.
Eh bien, merci Jeanne. Et la seule chose que je peux te souhaiter, c'est une très très bonne continuation.
Merci bien. Et toi de même, hein ?
Ça va faire des histoires.
Vous écoutez Ça va faire des histoires, une émission de Michel Vitou.
Maintenant, je vous propose une histoire racontée par Michel Corignan. Lui, c'est un ami conteur breton, comme moi, et lui aussi est imprégné de la culture et de la tradition bretonne. Voici donc Michel Corignan dans Le coq et le renard.
On est le petit matin, même un petit peu avant le petit matin, il fait encore complètement noir. Mais quand même, là-bas, à l'est, on voit une petite bande plus claire. C'est que le jour va bientôt se lever. Et là, dans le poulailler de la ferme, il y a le coq qui ouvre un œil. Il se dit, attention, ça va être mon tour. Alors, il se dresse sur ses ergots, il bat des ailes, il secoue sa tête, il secoue la crête, et il gonfle ses poumons, il pousse un cocorico à réveiller tout le pays. Il y a quelqu'un qui passe dans le chemin pas très très loin, qui rentre de sa nuit de chasse, c'est le renard. Le renard, il entend chanter le coq, et ça lui met l'eau à la bouche et se dit « Oh, j'en ferai bien mon petit déjeuner de ce coq. » Alors le renard rentre dans la cour de la ferme, justement le coq vient de sortir dans la cour, il est en train de gratouiller la poussière, trouver des petites graines, des petites choses à manger. Le renard s'arrête à bonne distance du coq et dit « Bonjour le coq, qu'est-ce que tu chantes bien ?» L'autre dit « Eh bien sûr que je chante bien, je suis le meilleur coq de la région, tout le monde vous le dira. » En tout cas, c'est pas moi qui irai dire le contraire. Enfin, pour l'instant du moins, parce qu'il y a quelques années, j'ai connu un coq qui chantait mieux que toi. Hein ? Un coq qui chantait mieux que moi ? C'était qui ? Ben c'était ton père. Mon père ? C'est pas possible, c'est lui qui m'a tout appris. Pas tout. Ton père, pour chanter encore mieux, il fermait les yeux. « Oh ben, s'il y a que ça, dit le coq, il se dresse sur ses ergots, il bat des ailes, il secoue sa crête, il gonfle ses poumons, il ferme les yeux, il s'en va pour chanter son cocorico quand le renard l'attrape dans la gueule et il part avec le coq. » Il y a les gens de la ferme qui viennent de se lever, qui se lèvent, qui sortent dans la cour, qui voient le renard partir avec le coq et lui crient « Vite, vite, vite !» au renard, il emporte le coq et ils se mettent à le poursuivre avec des fourches, avec des bâtons et le pauvre coq qui est là, brinque-ballé dans la gueule du renard et le renard, il a du mal à distancer ses poursuivants avec le poids du coq et le coq, il n'en peut plus, alors Il tourne la tête vers le renard et dit-leur que ça ne leur regarde pas, ces histoires-là. Et le renard se retourne vers ses poursuivants et dit « ça vous regarde pas !» Et pendant ce temps-là, il a ouvert la gueule et le coq s'est échappé. Et il est monté là sur un petit pommier qui est au bord du chemin. Et de là-haut, il regarde le renard en bas et dit « merci mon ami. Aujourd'hui, tu m'as appris une chose. C'est qu'il faut toujours garder l'œil ouvert. Mais moi, je t'en ai appris une autre, c'est que quelquefois, il vaut mieux la fermer. »
Maintenant, je vous propose d'écouter un conte. Ce conte a une histoire assez extraordinaire. Il se trouve qu'il m'a été confié par le grand-père de Monsieur Hervé Bauger, qui est le propriétaire du manoir de l'Ossulien, ce manoir situé au relais de Kéruon. Ce manoir date du 15e siècle. Et comme tout bon manoir qui se respecte, ce manoir a une histoire. Il y a dans son histoire un fantôme. Le fantôme d'Albéric. Albéric, c'était le meunier du manoir de l'Ossulien. Alors là, maintenant, je vous propose d'écouter la malaventure d'Albéric. En 1674, la France comptait beaucoup de colonies dans le monde entier. Et il y en avait une située sur une île qu'on appelait déjà la Martinique. Sur cette île, il y avait un fort qu'on appelait déjà le Fort de France. Et dans ce fort, eh bien, il y avait une trentaine de soldats français ou plus exactement breton, dont la mission principale était de préserver les trésors de cette île. Et ce matin-là, le capitaine a réuni tous ses hommes et il leur a dit comme ça « Les gars, plusieurs fois vous avez vaillamment défendu cette île, plusieurs fois vous avez bouté les Anglais hors de l'île, mais cette fois j'ai une mauvaise nouvelle. » Ce ne sont pas des Anglais, ce sont des Hollandais. Et d'après la vigie, il y aurait 3 navires qui cinglent toute voile dehors vers ici. Et sur ces 3 navires, on aurait dénombré 900 hommes en armes. Mais nous allons leur faire voir que nous, les Bretons, nous valons 1 pour 1000. Alors le capitaine a donné l'ordre qu'on aille chercher toutes les barriques de rhum qu'il y avait sur l'île. Et ça, du rhum, c'est pas ça qui manquait là-bas, en Martinique. Quand on a ramené toutes les barriques, il a demandé qu'on dispose les barriques en haut de la petite butte qui domine la plage. On les a calées avec des grosses cales et on a attendu. T'en as vu ? Au loin, les 3 navires qui arrivaient, qui cinglaient toute voile dehors, quand on a vu les hommes en descendre et embarquer dans des chaloupes, quand on a vu les chaloupes atterrir sur l'île. Et quand on a vu les hommes en descendre et commencer à remonter la plage en hurlant et en vociférant, en brandissant leurs armes, à ce moment-là, le capitaine a donné l'ordre d'enlever les cales et les barriques se sont mises à rouler, écrasant tout sur leur passage. Un véritable rouleau compresseur. Il y avait des barriques qui s'écrasaient, qui s'ouvraient en deux. Et le rhum, le précieux liquide, se répandait sur la plage. Et les Hollandais, interloqués par ce liquide odorant, cette odeur irrésistible, se baissaient et se mettaient à boire à genoux, à même le sol, si bien qu'au bout d'un moment, il y avait des morts et des ivres morts, mais pas un seul Français n'avait été blessé. En voyant cette débandade, le capitaine des Hollandais a fait sonner la retraite, et ma foi, tout ce qui restait d'hommes valides s'est empressé de regagner la chaloupe et de disparaître à jamais. Les Français, eux, ils avaient gardé une barrique de rhum. Et ils ont fait la fête, une grande fête toute la nuit. Cependant, sur le champ de bataille, c'était pas beau à voir. Et il y avait là des débris de barriques un peu partout. Il y avait des morts, il y avait des blessés. Et il y a une petite Martiniquaise qui avait observé toute la scène cachée derrière un rocher. Quand elle a vu que tout était calme, elle s'est rapprochée. Et là, elle l'a entendu. Elle a entendu les cris, les pleurs, comme les pleurs d'un enfant. Elle s'est rapprochée. Et là, elle l'a vu. Oh, un jeune mousse hollandais. Il avait quoi? 14, 15 ans. Il avait eu la jambe arrachée avec une barrique. Alors, n'écoutant que son courage, la jeune fille a pris le jeune gars, elle l'a porté sur ses épaules, elle l'a traîné jusqu'à chez elle, elle l'a mis dans sa maison, elle l'a allongé dans son lit, elle a essayé de le soigner comme elle pouvait, mais la jambe était vraiment en piteux état. Alors elle a fait venir le guérisseur, quand il a vu la jambe, il a dit « Oh, oh, oh !» Non, d'autant plus que la gangrène avait commencé à faire son effet, alors il n'y avait qu'une solution. Il fallait couper la jambe, couper au-dessus du genou et lui mettre une jambe de bois. Mais c'était un jeune gars robuste et au bout d'un mois, un mois et demi de convalescence, il a commencé à se lever, à essayer de marcher en claudiquant avec cette nouvelle jambe de bois qu'il avait et découvrir aussi toute cette île qu'il ne connaissait pas, apprendre ce langage qu'il ne connaissait pas. Eh bien, il est resté longtemps sur cette île. Il est resté 30 ans. Mais il avait quand même souvent la nostalgie de sa Hollande natale. Et bien souvent, quand il savait qu'il y avait un navire en partance au port, il allait se présenter. Mais à chaque fois, quand on le voyait, on lui disait « Ah non, désolé mon gars, avec ta jambe de bois, tu feras rien de bon sur un bateau. » Alors un soir, en désespoir de cause, quand il savait qu'il y avait encore un navire en partance qui était port, il a attendu la nuit et quand il faisait bien nuit, qu'il n'y avait plus personne, il s'est glissé dans la cale du navire. Le navire est parti. Quand il a senti qu'il était à peu près au milieu de l'océan, il a osé sortir de sa cachette, d'autant qu'il avait faim, il avait soif. Alors il a remonté les escaliers de la cale, il a ouvert la porte, à peine avait-il ouvert la porte que deux matelots lui sont tombés dessus. Ils l'ont traîné jusqu'au capitaine. Et là le capitaine lui a dit « Mon gars, je suppose que tu connais le sort que l'on réserve aux passagers clandestins. Mais rassure-toi, on va pas te jeter à l'eau.
Seulement, je te préviens, mon gars, nous, c'est pas en Hollande qu'on va, c'est à Brest. Ah, Brest. Bah, il avait entendu parler de ce grand port de guerre, ce grand port de commerce. Eh, ma foi, eh, il y trouverait peut-être du travail à Brest. Allez, va pour Brest. Au bout de plusieurs semaines de navigation, le navire a enfin accosté sur le port de Brest. Quand il est descendu, qu'il a vu toute cette animation, tous ces ouvriers qui allaient, qui venaient, tous ces grands navires en bois dans la pinfelde qu'on construisait, eh bien, il s'est dit, sûr, ici, je vais trouver du travail. Il s'est avancé jusqu'à la porte de l'arsenal et là, il s'est présenté au garde qu'il y avait à la porte et le garde l'a regardé des pieds à la tête et de la tête aux pieds. Et il a regardé sa jambe et lui a dit non. Non. Désolé, mon gars. Avec ta jambe de bois, il n'y a pas de place pour les estropiés ici à l'arsenal. Alors, il est reparti. Et il a commencé à errer dans cette ville qu'il commençait à connaître, ses quartiers, dont un en particulier, qui l'avait un plus attiré que les autres, le quartier de Recouvrance, qui était juste au-dessus du port de commerce de Brest. À Recouvrance, il y avait beaucoup de cafés, il y avait beaucoup de bars à cette époque déjà. On appelait ça des estaminets, mais ça avait la même utilité que les cafés de maintenant. Et quand il a vu tout ça, eh bien, il est rentré dans un café et puis là, on a eu pitié de lui, on lui a donné un peu à manger. Alors pour remercier ceux qui l'avaient donné à manger, eh bien, il a raconté son histoire. Son histoire plaisait tellement que on le retrouvait tous les soirs à la même heure et on lui donnait une part de kikafarce, une bolée de cidre et on lui disait « Allez, vas-y, vas-y, raconte ton histoire !» Et lui, inlassablement, il racontait comment lui, un jeune mousse hollandais, il avait été terrassé par une barrique. Mais au fur et à mesure du temps qu'il passait dans ce bar, eh bien, on avait fini par le connaître, mais on se moquait un petit peu de lui quand même. Surtout que les enfants, qui étaient très moqueurs, avaient pris pour habitude de le suivre quand il rentrait chez lui en scandant « Arbaric, Arbaric, Arbaric ». Arbaric, ça voulait dire en breton « la barrique ». Seulement le breton, vous savez, déjà à cette époque, on ne le parlait plus beaucoup à Brest. La francisation avait commencé à faire son effet néfaste et on ne voulait plus parler breton. Alors, on changeait les noms et de Arbaric, on a décidé de l'appeler Albéric. Ah, Albéric, ça, c'est un beau nom. Hein, c'est un nom qui en jette. Oui, mais seulement un nom, ça nourrit pas son homme. Alors, un matin de tous les matins, il a fait son baluchon, il l'a mis sur son épaule et il est parti en direction du sud. Il s'est mis à marcher et marche aujourd'hui et marche demain. Marche 10 ans et marche 20 ans. Marche 10 ans, 20 ans, 1000 ans, c'est en marchant qu'on fait les chemins. Et marche aujourd'hui, marche demain. Il a marché, marché. Il est arrivé au Moulin Blanc. Il a marché encore et il est arrivé chez les Kérors. C'est comme ça qu'on appelle les habitants du relais de Kerlouan. On lui avait dit que les Kérors, c'était les habitants les plus accueillants de toute la Bretagne. Alors, il a décidé d'aller voir si c'était vrai. Et la légende dit qu'ils sont tellement accueillants là-bas, les Kérors, qu'ils ont même accueilli le diable. Oui. Celui-ci ayant été chassé de Plougastel, de l'autre côté de l'Élorn, a décidé, poursuivi car on l'avait reconnu. On avait vu qu'il avait des pieds en forme de sabots de cheval, et à cause de ça, eh bien, on l'a jeté dans les Lornes. Il est parti à la nage, il a traversé les Lornes, il était trempé, fatigué, et il est arrivé chez les Kérors, du côté, de l'autre côté de les Lornes. Et là, il y a une femme, une Kéror, qui l'a accueilli, qui lui a donné à manger. Il a pu se sécher au coin du feu. Alors, pour remercier cette femme, eh bien, il a pris tous les cailloux, tous les rochers qu'elle avait dans son jardin, et il les a jetés de l'autre côté de les Lornes. Et ils y sont toujours. On appelle ça maintenant les rochers de l'impératrice. Mais c'était comme ça. Et notre ami Albéric, ayant été arrivé jusqu'à la petite crique de Canfrout, il est arrivé là-bas, et là-bas, il a fait la connaissance de Marie-Lizik Poulaouen, celle qui sait tout sur tout le monde. Marie-Lizik Poulaouen, la femme qui dort dans un bateau. Marie-Lizik Poulaouen, la femme la plus accueillante de toutes les Kérors. Elle accueillait tout le monde dans son bateau, enfin les hommes en particulier, oui. Et souvent, eh bien, on voyait les hommes rentrer dans le bateau de Marie-Lizik et 1h30, 2 heures après, en ressortir avec un grand sourire sur le visage et un air détendu. Ma foi, elle avait un don, Marie-Lizik. Et Albéric, quand il est arrivé, il a aussi été accueilli par Marie-Lizik. Et quand ils étaient tous deux allongés dans la couche du bateau de Marie-Lizik, elle lui a dit comme ça, « Alors tu cherches du travail ?»« Eh bien, figure-toi que moi, j'ai entendu dire que, tu sais, un petit peu plus haut là-bas, il y a un manoir qu'on appelle le manoir de l'Ossulien. Il paraît que le propriétaire du manoir, il est très riche, et il a embauché déjà pas mal de gens pour rénover son manoir. Tu devrais aller voir et peut-être que tu vas trouver du travail. » Alors Albéric, le lendemain matin, a décidé de prendre la route et de faire le petit chemin qui va de Canfrout jusqu'au manoir de l'Ossulien. Et là, il a été présenté directement au seigneur, Jacques Fleury de Pennamen, seigneur de l'Ossulien et gouverneur des châteaux de Quimper. Qui lui a dit en effet, nous avons déjà rénové la chapelle, nous avons rénové l'aile sud et l'aile nord du manoir, nous avons rénové la ferme, il ne reste plus que ce petit moulin que tu vois là-bas, derrière l'étang. Eh bien, si tu rénoves ce moulin, tu seras nommé officiellement le meunier du manoir de l'Ossulien. Et Albéric s'est mis au travail. Oh, il fallait le voir, monter à l'échelle avec sa jambe de bois en portant des énormes poutres de bois. Il a tout rejointé, il a tout refait le toit, il a rénové. Et au bout de 1 mois et demi, 2 mois, le moulin était flambant neuf. Et il a ainsi été nommé le meunier du manoir de l'Ossulien. Il avait aussi tellement bon cœur qu'il aidait dans les cuisines, il aidait partout, il était devenu indispensable. Et en plus, Albéric, c'était un homme qui était fidèle en amitié. Et quand il avait un petit moment, eh bien, il redescendait voir dans la crique là-bas, sur le bateau de Marie-Lizik, et passait quelque temps avec sa bonne amie Marie-Lizik Poulaouen. Cette nuit-là, ils étaient tous deux allongés et la lune dardait ses rayons sur les Lornes et Marie-Lizik lui a dit comme ça « Tu vas souvent dans la grande salle du manoir ?»«
Oh ben oui, j'y vais souvent. J'y vais tous les jours pour faire la vaisselle, pour nettoyer. »«
Oui, eh ben écoute-moi bien. Je vais te confier un secret. Ce secret, je le tiens de l'arrière-petit-fils du maçon, qui, sur les conseils de l'arrière-petit-fils du propriétaire actuel du manoir,
aurait construit un passage secret à l'intérieur de ce manoir pour y enterrer un trésor. Un trésor ! Oh ! Elle n'avait pas fini de le dire qu'Albéric était déjà reparti. Le voilà avec sa jambe de bois qui se dirige de nouveau vers le manoir de l'Ossulien. Là, il était 11h du soir, la nuit était noire, alors il a ouvert la porte du manoir qui s'est ouverte en grinçant. Et là, à la lueur d'une chandelle, il a vu, en effet, selon les indications de Marie Lézic, il y avait un lit clos. Il a déplacé le lit clos et juste en dessous de la fenêtre qui donne sur le nord, elle lui avait dit, et elle était là, il y avait bien une petite porte. Il a ouvert la porte. Oh, c'était tout noir là-dedans. Mais il y avait un escalier qui descendait. Alors, avec sa chandelle, il a commencé à descendre les escaliers. Il a descendu une marche, deux marches, trois marches et... Ah ! La chandelle, elle s'est éteinte. Oh, Pénagaste ! Oh, ça, c'est le bon Dieu qui me punit. Oh, j'ai commis trop de péchés avec Marie Lézic. Il faut que je trouve quelqu'un qui n'a pas commis de péché. Un enfant, par exemple. Et là, il s'est souvenu que, eh bien... Il y avait le petit Jopic de la ferme d'à côté. Et le lendemain, il est allé trouver le petit garçon. Il lui a expliqué l'histoire. Il lui a dit « un trésor, hein ? Et si on le trouve, on partage. » Oh ! Il n'avait pas fini de le dire, que déjà le petit garçon était monté sur ses épaules. Et il lui dit « on y va !» Doucement, attends, donc ce soir, quand tout le monde dormira. » Et en effet, le soir, ils se sont retrouvés, quand la nuit était tombée, à la porte du manoir. Et là, le petit est monté sur ses épaules. Il a ouvert la porte. Et là, ils sont rentrés. Et ils ont ouvert la petite porte. Il a commencé à descendre les escaliers. Une marche, deux marches, trois marches. Cette fois, la chandelle ne s'est pas éteinte parce que c'est le petit garçon qui tenait la chandelle. Et arrivé en bas, eh bien, il avait apporté... une pioche et un marteau. Et là, il a commencé à sonder les murs. Oui, mais ça sonnait pas creux, ça sonnait plein. Oh, et puis le tunnel. Oh, mais ce tunnel est interminable. Il fait au moins un kilomètre. Je sais pas, moi, il me faudra des mois. Alors il a continué toute la nuit. Et au fur et à mesure qu'il avançait, il se rendait compte que ce tunnel paraissait interminable. Et le matin, le jour s'est levé, alors il fallait vite ramener le petit à la maison pour ne pas éveiller les soupçons, le ramener et reprendre le travail comme si de rien n'était, et se retrouver le soir, à la tombée de la nuit, pour encore aller dans ce tunnel interminable. J'ai bien dit interminable, et encore sonder. Sonder. Au bout de 3 semaines, il avait à peine sondé la moitié de ce tunnel. Il a fini par se décourager. Et là, il a dit « Ou Marie Lézic m'a raconté des histoires, ou alors quelqu'un est déjà passé avant moi dans ce tunnel. C'est fini, moi j'en ai marre, j'abandonne. » Mais c'était sans compter sur le petit qui était sur ses épaules et qui le talonnait comme on talonne un cheval en lui disant « On continue !» Alors il s'est souvenu que dans sa précipitation, il avait oublié quand même de sonder juste à l'entrée là, en bas de l'escalier. Et là, il est arrivé et il a tapé contre le mur et ça sonnait creux. Oh, mais... Alors là, il a pris sa pioche et il a commencé à creuser. Il a ouvert un grand trou béant et dans ce trou béant, on a vu une immense barrique remplie de pièces d'or. Une barrique qui devait peser, je sais pas moi, une tonne. Ah mais oui, mais comment déplacer une barrique pareille? Il a réfléchi.
C'est tellement lourd, ça. Si, j'ai une idée. Il a pris le petit, il l'a assis sur la barrique, il a dit « Toi, tu restes là, moi, je vais aller chercher une brouette chez Marie-Lizique. Tu bouges pas de là. » « Ah ben non, a dit le petit, je peux pas rester tout seul. Les villes t'en sous. » « Ah oui, mais j'ai oublié de vous en parler, des villes t'en sous. Ben, vous savez que chez nous, en Bretagne, il y a toutes sortes de lutins, de dépression. Il y a aussi des corrigans. Il y a aussi Acheruons, une race spéciale de corrigans qu'on appelle les Viltansous. Et il se trouve que ces Viltansous ont la fâcheuse habitude de protéger et de s'amuser avec les trésors cachés.
Bon, des Viltansous, ça n'existe pas, ça. C'est des histoires de bonnes femmes. Reste là, je te dis, je reviens tout de suite.
Et il a commencé à remonter les escaliers. Seulement, il n'avait plus sa bougie. Et quand il a commencé à monter les escaliers, il a entendu comme un roulement. Un énorme roulement, comme une immense barrique qui roulerait dans l'intérieur de ce souterrain. Et puis il a entendu des cris. Albéric, les villes t'en sous. Alors, il est redescendu à toute vitesse. Il est arrivé dans le trou, et là, dans le tunnel. Et là, le trou, vide. Plus de barrique. Plus d'enfants, plus rien. Alors lui, à son tour, il a perdu les pédales. Il a recommencé à monter les escaliers en hurlant. Les villes t'en sous. Il est remonté jusqu'à la salle. Il a traversé la salle. Il est sorti du manoir. Il s'est dirigé vers l'étang. Les villes t'en sous. Et il a disparu. Le lendemain, on a fait une battue. On a cherché partout dans les environs, pas de trace d'Albéric. Jopic, le petit garçon, quand il s'est réveillé dans son lit le matin, il avait tout oublié. Alors, bien sûr, tout ça, c'est des légendes, hein. Mais il y a des gens par chez nous, comme ça, qui disent que les soirs de pleine lune, on pourrait voir Albéric faisant une ronde autour du puits, dans la cour du manoir, en tenant par la main les villes t'en sous. Tout ça, c'est des légendes, hein. Mais toutefois, si vous allez un jour là-bas, du côté du manoir de l'Ossulien, et que vous vous aventurez jusqu'à cette petite crique qui s'appelle la crique de Canfroute, asseyez-vous dans le sable sur la plage. Faites le silence en vous, fermez les yeux, et peut-être si vous avez de la chance, écoutez bien le murmure des vagues, et peut-être que comme moi, vous entendrez dans le murmure des vagues quelque chose qui fait... Mais tout ça, c'est des légendes, n'est-ce pas? Comme il y en a beaucoup chez nous, en Bretagne. Thank you.
à tous ceux qui ont pris le temps d'écouter mon émission jusqu'ici, eh bien, je vous dis merci de m'avoir prêté vos oreilles encore une fois ce mois-ci. Merci d'aimer et de faire connaître autour de vous l'art du conte. Et comme je le dis depuis très longtemps, écouter un conte, c'est se relier à la partie la plus profonde de nous-mêmes, la plus authentique, celle du silence intérieur. Les contes parlent une langue que notre cœur et notre sensibilité comprennent, à défaut parfois même de notre raison. Ils nous disent tout cela en une langue qui transcende les siècles et les civilisations. Eh oui, les morales passent, mais l'enseignement transmis par les contes, lui, ne s'arrêtera jamais. Au revoir et rendez-vous le mois prochain. Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.
Ça va faire des histoires.